tout de suite, nous sommes dans le Tarn, qui est à la source du canal du Midi, si mes souvenirs sont bons.
Hein, je crois que c'est dans la montagne noire,
tout
il me semble.
Ouais, tout à fait. C'est le fief du rugby, c'est le pays d'Albi et de sa cité épiscopale. Et puis surtout, c'est le fief d'un homme que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à accueillir aujourd'hui en studio, Jean-Louis Étienne, un des plus grands explorateurs français. C'est le premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire. C'est l'homme qui fut le premier aussi à traverser l'Arctique en ballon et un des rares Français qui, de son vivant, à l'entrée de son village, a une pancarte avec inscrit « Ici est né Jean-Louis Étienne ». C'est bien ça?
Oui, c'est bien ça. À l'entrée du village, il y a un panneau. Village natal de Jean-Louis Étienne. Ça date du Tour de France.
Ah oui ?
Vous savez, quand le Tour de France passe, il y avait un commentateur qui était dans l'hélico ou je ne sais pas quoi, qui disait « Ici, nous traversons, ici, vous avez la cathédrale 2, et ici, nous traversons le village natal de Jean-Louis Étienne. » Alors du coup, la mère du village a mis...
C'est super, ça doit faire plaisir.
C'est là où je suis né.
Ouais.
C'est là où j'étais à l'école petit, c'est là où j'étais...
C'est lequel d'ailleurs, ce village ?
Vielmur, sur Agoute. La ville s'appelle, la rivière s'appelle l'Agoute. Et j'ai grandi là.
Mais alors, moi j'ai une question à vous poser, c'est quelqu'un qui, comme vous, a fait le tour du monde, est allé au pôle Nord, qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, vous revenez, comme Ulysse, posez vos valises là où vous avez grandi. Vous n'avez pas trouvé mieux que le Tarn.
C'est une bonne question. Tous les voyageurs cherchent un endroit où ils font poser le sac et se dire, c'est là. Vous voyez, espèce d'apaisement, vous avez trouvé votre lieu, votre maison, quelque part. C'est là, vous vous sentez bien. Et donc je cherchais, j'en ai trouvé des coins dans le monde. Hein.
Ouais, lesquels par exemple?
En Polynésie par exemple, c'était absolument magnifique, en Himalaya. Et puis un jour, en temps de la traversée de l'Antarctique, je vais voir le maire du village, il dit « t'as pas un coin tranquille là, une maison là ?» Il m'a dit « si, on est en train de faire un lotissement là, tu verras, c'est vachement... » J'ai dit « non mais je ne vais pas me foutre dans un lotissement, je cherche un coin tranquille, sauvage. » Et donc on a sillonné, puis on est arrivé sur une colline, il y avait une maison, au fond il y avait les Pyrénées, en bas la vallée de la Goutte, c'est dans les forêts, dans une forêt, il y avait une maison, mais je ne sais pas si elle est à vendre. Et puis donc je suis revenu tout seul, puis je dis « c'est là, c'est là ». Et en fait, c'est...
Pourquoi c'était là?
J'avais besoin de revenir peut-être dans le Tarn. Ça fait longtemps, ça faisait 15 années que je faisais des expéditions. C'était très apaisant, le coin. Et puis, surtout, j'avais envie de construire ma cabane. C'est ça, j'avais un rêve de bâtisseur.
Ouais.
Et là, il y avait une maison déjà. Parce qu'aujourd'hui, pour construire une maison dans les forêts, c'est impossible. Il y a des postes, il y a des cosses, il y a tous ces trucs. Ouais. Voilà. Il y avait une maison. Et là, tout d'un coup, j'ai vu l'endroit perché, dominant. Il y avait une forêt de chênes. J'ai dit, c'est là que je vais la faire. Et donc, j'ai construit, enfin, la première avec un charpentier, la deuxième, c'est moi qui l'ai faite.
Vous-même?
Oui, moi, je suis un manuel, moi, au départ. Moi, vous savez, j'avais fait un CAP de tourneur-fraiseur.
Ah oui?
Oui, j'étais à l'école à Vielmur, donc, et puis après à l'école à Castres, et puis après, j'étais au collège technique, à Mazamet, toujours dans le Tarn, parce que je n'avais pas les notes pour entrer en sixième. En fait, je sais aujourd'hui que j'étais très dyslexique, dysorthographique, et donc je ne vais pas la faire. Et donc j'ai eu une formation professionnelle. Donc pendant 3 ans, on fait un CAP, on fait les tolimeurs, la fraiseuse, le tour, enfin. Et là, j'ai eu de l'intérêt pour la scolarité. Et donc je le dis à toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont un enfant qui est en difficulté, qui est... C'est pas parce qu'il est couillon, c'est parce qu'il n'a pas trouvé son chemin dans la voie scolaire.
Absolument.
Et des fois, un retour sur, comme j'ai pu le faire, sur la formation professionnelle, c'est une reprise de confiance. Et après, donc, je me dis, vous allez passer le bac. Donc, j'ai passé un bac technique. Qu'est-ce que je vais faire, un bac technique? Donc, j'ai fait médecine, je voulais faire médecine. Puis après, j'étais interne en chirurgie. Et là, en chirurgie, je retrouve le geste manuel, vous voyez? J'adorais l'orthopédie, on met des plis, des vis, des plaques, des broches, des clous. J'étais bon.
Il y a une logique.
Voilà. Mais il y avait une volonté d'expédition depuis trop petit. Moi, je suis né à la campagne et j'avais cette...
Mais alors justement, parce que vous êtes revenu dans le Tarn parce que vous vous y sentez bien, mais qu'est-ce qui vous a poussé à partir du Tarn et à aller très très loin? Est-ce qu'il y a dans le Tarn quelque chose qui vous a envoyé au bout du monde?
Non, ce n'est pas là que ça se passe, non. Je ne sais pas où.
Ça se passe où?
Je ne sais pas, mais c'est un désir de nature. J'étais assez solitaire et je faisais des engagements. Vous avez évoqué la montagne noire, et donc c'est le point culminant, le pic de Nord à 1200 mètres. Et mon père, avec 4 chevaux, nous amenait de temps en temps en hiver. Et alors moi, je me faisais, en hiver, avec du givre, il y a encore de la neige, je me faisais des rêves d'expédition himalayenne. Donc j'ai beaucoup rêvé de ça. À 14 ans, j'ai fait une liste de matériel pour aller camper dans les Pyrénées en hiver. Et une expédition, je voulais faire, j'avais des idoles, Walter Bonatti, des gens qui faisaient la face nord du Cervin. Donc je rêvais d'expédition sans trop savoir ce que c'était, mais je rêvais d'engagement dans la nature, comme ça.
C'est beau, puisque vous avez réalisé vos rêves aussi.
J'ai réalisé effectivement ces rêves. Vous savez, c'est la médecine qui m'a conduit à ça. J'ai fait la médecine, donc. Et puis, à un moment donné, j'ai fait la course autour du monde avec Eric Tabarly, parce que j'étais médecin. J'avais une compétence tellement de mère. J'ai fait des himalayennes, comme ça. Et entre les expéditions, je revenais dans le Tarn, remplaçais le médecin du village ou des villages à côté pour gagner ma vie. Donc j'ai exercé la médecine là, en même temps, en remplacement. Je n'ai jamais eu mon cabinet. Et au début, donc, au village, donc, les gens me regardaient et me disaient « Bon, alors comment je te dis ?» Je te dis Jean-Louis ou docteur ? Comment te... voyez, c'est...
Jean-Louis Etienne, vous restez avec nous. On va continuer à explorer le Tarn avec vous dans un tout petit instant sur Europe 1.
16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
2 heures de voyage tous les jours sur Europe 1, en Tanzanie tout à l'heure, après le flash de 17h. Mais là tout de suite dans le Tarn, avec Jean-Louis Etienne, le premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire, l'homme qui fut le premier à traverser l'Arctique. Mais je ne suis pas sûr que ce soit plus facile.
L'Atlantique.
Vous avez traversé l'Atlantique aussi, mais oui.
Oh oui.
Mais oui, bien sûr. Pardon. Eh oui.
C'était ma première grande navigation. J'ai fait ça avec le père Jaouen. C'était un jésuite où on a mené sur le Bel Espoir. Et on avait des jeunes en difficulté sociale ou des toxicomanes sortis de prison. Ouais. Et donc, j'étais le médecin sur ce bateau. On traversait l'Atlantique pour les éloigner des fournisseurs et leur donner une autre énergie de vie. Ouais. C'est ça l'idée.
Alors, vous êtes originaire du Tarn. Et il y a un autre explorateur célèbre dans le Tarn qui s'appelle Lapérouse,
qui
a exploré le Pacifique. Au XVIIIe siècle, ça devait être quand même une sacrée aventure. C'est un peu un modèle pour vous, il vous a inspiré ?
Oui, ces navigateurs de cette époque-là, quand on navigue, quand on va dans des zones un peu difficiles, aujourd'hui on a des cartes marines, on a un GPS, on sait parfaitement où on est. Vous vous rendez compte avec ces bateaux qui n'étaient pas très manœuvrants en fait.
C'était fragile.
Et c'était uniquement à la force du vent. Ouais. Ils s'avançaient sur un terrain inconnu. De temps en temps, on envoyait un mec avant avec une corde pour voir s'il y avait... Donc, il y avait un gars qui était dans la mature pour voir s'il y avait des rochers. Vous vous rendez compte? Donc, ils voyaient une île de temps en temps et ils essayaient de s'approcher. Des fois, c'était impossible. Moi, je suis fasciné par l'audace de ces gens. Quoi.
Le courage, la force aussi.
Oui, et l'audace. Et puis, ils étaient nombreux sur des bateaux et ils menaient des hommes dans des situations complexes. Quoi.
Et puis, il y avait des corsaires, des pirates en plus sur mers à l'époque.
Hein. Ah oui, oui,
c'était
oui.
Autre chose.
Ah oui, ils affrontaient tout. Quoi, hein. Donc, ce qu'a fait Lapérouse, c'est remarquable. C'était un voyage très humaniste qu'avait fait Lapérouse. Il n'était pas parti pour des conquêtes territoriales.
Ouais. D'ailleurs, il aurait pu en faire. On s'est un petit peu dit après que les Anglais en ont fait.
C'est très intellectuel. Oui, et c'est Louis XVI qui lui a demandé de partir et explorer le monde. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une histoire qui dit qu'avant de passer à l'échafaud, Louis XVI a demandé « Avez-vous des nouvelles de M. Lapérouse ?» Puisque c'est lui qui l'avait. Oui, oui, c'est l'histoire est véridique.
Incroyable. Quand vous vous baladez dans le Tarn, vous avez des petits coins secrets, des endroits à vous que vous nous recommanderiez?
Moi, j'habite sur un coteau, vraiment un peu au-dessus du village où je suis né. Puis c'est à côté de Lautrec, donc à mi-chemin. Et moi, je suis dans c'est mon port autonome, là, vous voyez. J'arrive, je débarque là et c'est un apaisement total. Je suis dans la forêt. Ces maisons sont en bois, sur pilotis. Elles ne sont pas sur les arbres parce que ça bouge, les arbres. Ouais. Sur pilotis. Donc ça, c'est un coin où je suis sûr de mon coup, là. C'est-à-dire, quand j'arrive, c'est très apaisant. Et le département du Tarn est apaisant.
Il paraît que vous avez dit, ce qu'il y a d'extraordinaire dans le Tarn, c'est qu'il n'y s'y passe rien.
Je l'ai dit il y a quelques années, oui.
Est-ce que c'est très flatteur pour le Tarn ?
Non, mais vous savez, c'est vrai qu'effectivement, à une émission de radio, j'avais dit ça pour qualifier la tranquillité de ce département. ça se vide au mois d'août, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que les autres départements se remplissent. Ouais. Alors qu'il y a une activité culturelle, il y a un concept. Et c'est le conseil général qui m'a appelé. Ils ont dit, écoutez, monsieur Etienne, nous, on fait des efforts. Et puis, vous êtes en train de dire qu'il ne s'y passe rien. Je voulais dire que c'était un havre de paix. Quoi. Ouais. Et aujourd'hui, je sais, quand je raconte cette histoire, il y a des gens qui relèvent en disant, aujourd'hui, c'est une valeur sûre. Ouais. Vous voyez oui, ce que je veux ça, dire hein. Chercher la tranquillité. Ça ressemble à la Toscane. Ce sont des coteaux, des champs, des bois. C'est très beau.
Ouais. Et c'est le pays du rugby, vous y jouez?
J'y ai joué. J'ai joué au Castres Olympique. J'étais demi de mêlée au Castres Olympique il y a longtemps. J'ai adoré ce sport. Ça a été un de mes sports favoris. J'avais la taille du mêlée. J'ai adoré, oui, le rugby.
Moi, j'aimerais vous poser une question, parce qu'à chaque fois, ça m'interroge. Parce qu'on parlait tout à l'heure de la Pérouse et du courage de ces navigateurs. Quand vous êtes tout seul au pôle Nord, dans des conditions dantesques, pendant des semaines, qu'il fait froid, que vous gérez la solitude, l'angoisse de pouvoir parler à personne, comment vous faites? Vous vous appuyez sur quoi? Quel est votre ressort?
J'avais une très forte envie d'aller au pôle Nord. Le pôle Nord est venu, donc j'ai fait médecine, j'étais en chirurgie, puis je voulais faire des expéditions. La médecine m'a mis le pied à l'étrier de ces expéditions et j'en ai fait pendant 12 ans. Et j'allais avoir 40 ans, je me suis dit maintenant, il faut que je fasse la mienne. Parce que j'ai été recruté comme médecin, même si je suis alpiniste, je participais sur Penduic, vous prenez la barre comme tout le monde. Mais à 40 ans, je me dis, mais je vais faire la mienne. Et le pôle Nord s'est imposé comme la synthèse. Le pôle Nord est au milieu d'un océan gelé. Donc, aller vers le pôle Nord, c'est le froid de la très haute altitude, de la très haute montagne, la glace de la très haute montagne. Et en même temps, c'est une navigation maritime. On est sur un océan. Et j'ai compris que c'était pour moi dans le sens où ce n'est pas technique. Vous voyez, il faut tirer un traîneau. Tirer un traîneau, on n'a pas besoin de faire des stages. On vous met un traîneau à la taille, là, vous allez voir. Ça, c'est inné. Mais. Donc c'était ce point immatériel, et je l'avais en tête, j'avais le sentiment, je m'étais impliqué dans la préparation, que ma vie devait passer par le pôle Nord. Et donc ça a été pour moi une construction très forte, parce que je l'ai fait en 1986, il n'y avait pas de GPS, pas de téléphone, il n'y avait rien, donc c'était une immense solitude. Et j'ai connu moins 52 sous la tente, vous voyez, j'étais en hypothermie à un moment donné, donc je savais ce que c'était que l'hypothermie. Et donc,
mais quand vous êtes sous votre tente en hypothermie, en train de souffrir, oui. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là?
Il faut tenir jusqu'à 6 heures du matin, où je vais pouvoir de nouveau sortir, parce qu'il faisait nuit au début, c'est là que j'ai eu les très basses températures. Je pense que si on avait été au moins 2, on aurait abandonné, comme tous mes prédécesseurs.
Ah, pourquoi?
Parce qu'à un moment donné, j'étais limite. Vous voyez, quand vous êtes en hypothermie, il faut faire des tables de multiplication. Pour savoir le niveau de conscience que vous avez. Donc 4 fois 5, si vous n'avez pas 20, c'est grave. Enfin, il faut connaître les tables de multiplication avant de partir. Mais donc, je pense qu'à 2, je suis sûr qu'on aurait dit on est en train de déconner complètement. Quoi. Et tous mes prédécesseurs, qui étaient en équipe, avaient abandonné. Quoi.
Donc, on s'entraîne dans la chute quand on est 2?
Oui, certainement. On peut se fragiliser, on peut se potentialiser, en même temps, on a le courage, mais on peut se fragiliser, parce que là, on était en situation. Et j'ai cultivé une persévérance formidable. Ça a été très, très constructif pour moi, l'arrivée au pôle Nord. C'est un jour dans la vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je parlais au traîneau, parce que j'étais seul, je parlais au réchaud, qui m'avait accompagné, j'avais besoin de dire, on y est arrivé.
Vous avez parlé à votre réchaud?
Oui, le réchaud, c'est le Saint-Sacrement, quoi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ça marche, quoi. Hein. C'est lui qui vous fait fondre la glace pour avoir de l'eau pour faire chauffer les aliments lyophilisés.
Donc finalement, vous êtes très proche de la Pérouse, dans le courage et dans l'audace et dans le...
À ma façon, oui. Mais j'allais sur un terrain qui était connu, à part que la banquise est très dangereuse, quoi. C'est la banquise, il y a des crêtes de compression. C'est un champ de mines et c'est un océan gelé de tempêtes. Il y a des crêtes de compression, on escalade la glace. Et donc, je répète, c'est constructif, ces engagements solitaires. Mais ça n'a pas la peine d'aller si loin, vous voyez. Quelqu'un qui se dit, je vais monter la montagne, je vais gravir une montagne qui n'est pas technique, et puis qui est un peu fatigué, oh, je verrai si... Non, non, tenir. En se tenir, aller jusqu'au bout du but, si vous voulez. C'est ça qui est constructif et qui m'a vraiment apporté ce voyage-là.
Merci beaucoup, Jean-Louis Etienne.